Radio, cité Genève.
Radio Littératif, l'émission de l'actualité littéraire romande, animée par Sita Potacherova, tous les lundis à 20h et en tout temps sur radiocité.ch.
En ce 18 janvier 2021, on a le plaisir de faire un saut qualitatif littéraire grâce à Estelle Soyer de l'Université de Genève qui a contribué activement au catalogue de l'exposition du musée RAT sur Fred Boissonnat et la Méditerranée, une odyssée photographique aux éditions La Martinière 2020, une autre manière de parler de littérature en lien avec une génération de photographes genevois. Bienvenue!
Radio Cité Genève.
Le Radio Littératif a le plaisir de se retrouver à l'Université de Genève pour une littérature tout à fait particulière, académique et vulgarisée pour le coup, pour un catalogue inédit, celui de l'exposition au musée RAT qui évidemment a été lancé avec, on va dire, des vagues de confinement simultanées, mais le catalogue, lui, est à disposition. Fred Boissonnat et la Méditerranée, une odyssée photographique. Et on a le plaisir au Radio Littératif d'accueillir Estelle Soyer, qui a donc rédigé l'ensemble du catalogue, on va dire raisonné, de l'exposition, et essayer de brosser un tableau qu'on pourrait dire synthétique, ce qui a été un enjeu à mon avis colossal, de la saga de cette famille de photographes genevoises, les Boissonnat, de père en fils, une immense saga visuelle suisse locale qui mérite d'être connue. Donc peut-être deux, trois mots d'Estelle Soyer avant que je ne la salue. Maître d'enseignement et de recherche à l'Université de Genève, docteur en histoire de l'Université de Paris notamment, mais aussi de Naples. Vous avez travaillé notamment sur les usages de la photographie, l'histoire du regard et l'imaginaire géographique, ce qui tombe à point nommé pour les Boissonnat, bien entendu. Et c'est donc votre axe de recherche, le sens de l'image et du visuel dans le temps, dans la culture et entre êtres humains. On salue votre arrivée dans une émission littéraire pour votre catalogue. Bonjour.
Bonjour, merci pour cette invitation.
Alors, Estelle Soyer, comment amorcer ce fameux catalogue? Je vais lire en page 8, dans le prologue, une citation qui met en lumière une sorte de partenariat, on va dire, tout à fait curieux, entre Nicolas Bouvier, un auteur genevois, voyageur, qui était aussi iconographe, pour le coup, d'où le lien, avec les Boissonnat. Ce n'est sans doute pas un hasard si c'est à l'écrivain genevois Nicolas Bouvier qu'est revenu l'honneur de publier en 1983 le premier livre d'envergure sur les Boissonnat, après avoir été le commissaire d'une exposition sur cette dynastie de photographes. Nicolas Bouvier partage avec Fred Boissonnat, le représentant le plus reconnu de la famille, une passion indéfectible du voyage et un goût immodéré de l'image. Alors j'ai trouvé que c'était un fabuleux clin d'œil parce que Nicolas Bouvier était donc commissaire d'exposition et ensuite a récolté la plupart des archives pour essayer d'en faire une narration, la première des narrations des archives des Boissonnat. Et je trouvais que ça faisait un effet miroir avec votre démarche, Estelle Soyer, pour cette exposition sur les Boissonnat. Alors comment ce Bouvier vous a inspiré? Est-ce que quelque part il y a une forme de filiation dans la démarche?
Alors on doit beaucoup en effet au travail de Nicolas Bouvier qui a rédigé ce premier livre consacré à la dynastie Boissonnat dans les années 80. Alors aujourd'hui Fred Boissonnat est relativement peu connu, il est connu peut-être de certaines genevoises et genevois, il est connu en Grèce également pour son travail relatif à la Grèce, il est connu des bibliophiles pour ses livres, mais somme toute il est très méconnu du grand public, voire inconnu. Et en fait, sans Nicolas Bouvier, je crois que, en tous les cas, à l'université, nous n'aurions jamais découvert ses travaux et nous n'aurions jamais lancé ce projet de recherche, parce que c'est Nicolas Bouvier qui, le premier, a exhumé toutes ces archives photographiques et mis en valeur à la fois la richesse de cette œuvre, la richesse de ces archives, avec un récit extrêmement vivant, coloré, qui tient beaucoup à son talent de romancier, de narrateur, et qui a pointé dans son récit l'importance des Boissonnat dans l'histoire genevoise.
Une histoire genevoise, bien sûr, mais aussi une histoire de la photographie, on va dire, parce que quand même, c'est de la fin du siècle et du début du milieu du XXe siècle que s'inscrivent cette génération Boissonnat. Donc, il y a Nadar au début avec la photographie. D'ailleurs, l'un des Boissonnat va reprendre l'atelier de Nadar et le racheter. Et puis arrive cette recherche chimique sur la photographie, mais aussi sur le sens de la photographie en tant qu'art. Alors ce qui est très intéressant dans ce que vous relatez dans le catalogue, c'est que Fred Boissonnat va rencontrer un littéraire, en l'occurrence, le fameux Beau Bovy, avec lequel il va voyager en Grèce, un voyage qui va sceller toute une manière de voir le monde. C'est un voyage initiatique, en 1903, sauf erreur. Et alors, à ce moment-là, ce partenariat littérature-photographie va donner un autre sens à la photographie pour Fred Boissonnat.
Oui, alors ce qui m'a intéressé dans ce livre et ce qui nous intéresse dans l'exposition qui est consacrée, donc nous, cette fois-ci non pas à toute la dynastie Boissonnat qui a été en activité entre les années 1860 et 1980, mais vraiment à Fred Boissonnat qui a lui été en activité pendant près de 50 ans et qui est sans doute celui qui a poussé le plus loin la photographie, l'art de la photographie, la pensée de la photographie, et qui a, et c'est ce qu'on essaye de montrer à la fois dans l'exposition et dans le livre, qui a tenté de repousser les limites de la photographie, de repousser ses limites techniques, de repousser les limites de ce qu'on pouvait faire et dire à travers la photographie. La photographie qu'il a utilisée comme un outil documentaire, scientifique, mais aussi comme un outil artistique, ou comme une voie artistique à part entière. Et ça, effectivement, son travail avec Daniel Beau Bovy, qui était historien de l'art, lui a permis de penser, de repenser à la spécificité de la photographie. Et la photographie, non pas seulement comme moyen de documenter le réel, mais aussi la photographie comme moyen de retranscrire des idées, des émotions, des subjectivités, et de plonger dans l'imaginaire.
Alors ceci se retranscrit dans le travail de Fred Boissonnat avec Beau Bovy, bien sûr. J'ai essayé de sortir des axes, c'est difficile parce que c'est dense le travail de Fred Boissonnat et votre texte aussi, mais qui est tout à fait lisible, je rassure les auditeurs de Radio Cité. Alors il y a évidemment le voyage, intronisé par ce premier voyage en Grèce qui va être suivi par d'autres voyages, mais qui sont thématisés. Très vite, Fred Boissonnat s'intéresse par exemple à aller sur les traces d'Ulysse dans l'Iliade et l'Odyssée, de retrouver les lieux géographiques de l'initiation d'Ulysse et de son voyage et retour finalement à Athènes. Eh bien ça, il va aller sur les lieux même et il va choisir des textes mythiques ou fondateurs de différentes sociétés ou cultures pour aller visiter le pays sous une lumière, on va dire, littéraire.
Oui, alors ce qu'on veut montrer à la fois dans le livre et l'exposition, c'est que c'est pas tant, on valorise pas tant l'œuvre d'un grand artiste ou d'un grand homme. On essaye plutôt de mettre en valeur les liens entre ce photographe, cet artiste photographe, et toute une série d'acteurs, des écrivains, des archéologues, des spécialistes de l'histoire de l'art, pour voir comment cette œuvre est aussi une co-construction, est une recherche sur la photographie, et encore une fois, ce qu'on peut en faire, ce qu'on peut dire avec la photographie, comment on peut la pousser au-delà de ce qui est juste visible. Et à cet égard, l'Odyssée que Fred Boissonnat réalisa en 1912 avec Victor Bérard, qui était le traducteur de l'Odyssée, est un point culminant dans sa carrière. Parce que alors il va se rendre à Ceuta et Gibraltar, en Italie, en Grèce, dans différentes îles, et puis ils finissent leur périple en Tunisie pour essayer de documenter les lieux utilisés par Homère pour imaginer l'Odyssée. Et en fait, c'est un projet où le statut de la photographie est intéressant parce qu'il est, complexe, c'est à la fois un outil scientifique qui est destiné à collecter des preuves, et des preuves notamment géographiques, c'est une analyse géographique des paysages méditerranéens, mais il est aussi là pour essayer de retranscrire dans une sorte de caméra subjective le regard d'Ulysse. Et donc il est là pour aussi aider les lecteurs et les lectrices de l'Odyssée à se plonger dans le mythe à l'aide de la photographie, et pour faire revivre en fait le mythe dans les paysages contemporains.
C'est une pensée tout à fait moderne en quelque sorte, c'est assez révolutionnaire de penser la photo de cette manière-là chez Fred Boissonnat. Il y a un autre axe qu'il a vraiment beaucoup exploré, c'est le pictorialisme, les portraits, les mises en scène, mais d'une manière aussi de nouveau pour transmettre un message.
Oui, alors le pictorialisme, c'est le premier grand courant en photographie qui tente de faire reconnaître la photographie comme un art à part entière. Vous savez, la photographie est vraiment reconnue comme art à part entière seulement depuis les années 1980. C'est vraiment tardif. Mais déjà un siècle auparavant, des photographes, notamment amateurs, essayaient de lutter pour montrer que la photographie, c'était autre chose qu'un simple outil documentaire. Et Boissonna fait partie de ce mouvement européen. Leur stratégie, c'est notamment de montrer qu'on pouvait faire des tableaux photographiques et que la photographie pouvait être avec des matériaux particuliers, avec des techniques particulières, à égalité avec la peinture. Et donc, il copie également des grands sujets de la peinture en photographiant des paysages, en photographiant les paysans, en photographiant sa famille dans des scènes de genre. Et là, il y a un jeu avec la photographie. On montre que là, la photographie est aussi un jeu, une façon de jouer avec le réel et avec la signification du réel.
Il y a eu un exemple d'ailleurs dans l'exposition et qu'on retrouve dans le catalogue tout à fait cocasse en termes genevois, c'est quand il essaye de montrer des troglodytes en bas des falaises de Saint-Jean.
Effectivement, alors pour toutes les hommes préhistoriques ne sont autres que ses proches vêtus de peau de bête. Et alors c'est un tableau photographique qu'il a présenté dans plusieurs expositions pictorialistes en Europe. Oui, elle a également été publiée. Il y a consacré beaucoup de temps, beaucoup d'argent vraisemblablement. Enfin, vous verrez que chaque partie de cette image est extrêmement travaillé, composé. Et c'est aussi une façon de montrer que la photographie, ce n'est pas seulement un instantané, une façon de montrer l'ici et le maintenant, mais ça peut être aussi une façon de plonger dans le temps par le regard. Et c'est ce qu'il va ensuite faire avec Victor Bérard en montrant tout autour de la Méditerranée que les photographies étaient aussi un moyen de voyager dans le temps et dans l'espace.
Voyage dans le temps, dans l'espace, mais aussi témoignage, on va dire repère, inscription dans la mémoire, notamment par l'autre axe encore qu'il explore, Fred Boissonna, c'est le livre d'art photographique. Il était spécialiste pour, sur commande parfois, hein, notamment par des gouvernants de certains pays, mais de faire des livres objets d'art photographiques et textuels monumentaux, absolument magnifiques, des objets, des œuvres d'art, on peut presque parler d'œuvres d'art, en l'occurrence. Et ces exemplaires-là étaient très réduits parce que coûteux, donc il y en avait peu, et c'était probablement le must d'avoir un ouvrage Boissonna.
Oui, alors effectivement, il y a trois grands livres qui ont marqué sa carrière et qui sont des monuments de l'histoire du livre. C'est d'une part En Grèce par Mons et Parvaux. Enfin, le premier, c'est En Grèce par Mons et Parvaux, publié en 1910. Si vous avez vu l'exposition, vous pouvez voir qu'on l'a mis au centre de la grande pièce consacrée à la Grèce parce que c'est un véritable monument à la fois de l'histoire de la photographie et de l'histoire du livre. Le livre fait plus de 12 kilos, il fait plus de 50 cm de haut. Et la particularité, c'est que les photographies sont vraiment les reproduites sont de grande qualité. Reproduire des photographies, c'était alors un challenge à l'époque, parce qu'en général, les reproductions photographiques dans les livres n'étaient pas de grande qualité. Là, grâce à l'héliogravure, il peut produire un livre avec des photographies, avec des reproductions de très belle qualité. Et En Grèce par Mons et Parvaux a marqué l'histoire du livre et a marqué l'histoire de la photographie. Et c'est aussi un tournant dans la carrière de Fred Boissonna parce que ça lui permet d'acquérir une reconnaissance en Europe, en France, en Grèce, et de lancer toute une série de nouveaux projets.
Et peut-être le dernier axe, c'est le mouvement du corps humain. Il s'intéresse à la danse notamment, donc il y a une influence à un moment donné de l'exposition très bien montrée d'Isadora Duncan, hein, la danseuse, dans la manière de photographier la danse, la femme en mouvement, avec une recherche aussi de pouvoir capturer peut-être quelque chose qui s'appelle l'instant de l'éphémère du mouvement. Est-ce qu'on peut imaginer un mouvement en photographie? C'est le challenge qui s'ouvre sur toute l'histoire de la photographie elle-même et qui est à la frontière du cinéma notamment. Mais il avait cette sensibilité aussi.
Oui, alors effectivement, représenter le mouvement, c'était un enjeu, c'était à la fois un enjeu technique, et le père de Boissonnat a travaillé à la technique, a amélioré la technique photographique pour arrêter le mouvement et faire des photographies de personnages ou de choses en mouvement. Mais au tournant du siècle, et quand Fred Boissonnat prend la relève, c'est aussi un enjeu artistique. Et alors le cinéma vient d'être créé juste quelques années auparavant, et la photographie, alors il n'essaye pas d'aligner la photographie sur le cinéma, mais en tous les cas peut-être est inspiré par le cinéma dans ce qu'il permet de faire avec l'image et le jeu qu'il permet avec le mouvement, le jeu qu'il permet avec la musique. Fred Boissonnat était aussi musicien, il avait un attachement très fort à la musique, et la salle dont vous parlez, qui est consacrée à la représentation de la danse, est destinée à montrer combien il s'est aussi inspiré de l'art antique, et notamment des fresques de l'art antique, où le mouvement était très bien représenté, pour concevoir des photographies et pour inventer de nouvelles photographies de danse, en travaillant notamment avec Émile Jacques Dalcroze. Il photographie les rythmiciennes de Jacques Dalcroze pour la première fois dès son premier retour de Grèce, avec des danseuses, avec des rythmiciennes qui sont en costume grec, et qui évoluent en toute liberté dans la nature. Et là, ce qu'on veut montrer, c'est qu'il y a... Et en fait, c'est cette inspiration de la Grèce antique, Isadora Duncan, là, exactement au même moment. Et c'est aussi la Grèce et Athènes et les vestiges archéologiques qui ont incité, qui ont inspiré Isadora Duncan en 1903. Donc voilà, là, il y a un parallèle intéressant entre l'art antique, la photographie, entre la représentation du mouvement, entre comment... intégrer le rythme, la musique à une photographie qui est en deux dimensions, qui est statique.
Toute une recherche très intéressante par ce Fred Boissonnat qui s'inscrit dans le paysage genevois. Alors, ceux qui ont vu l'exposition et à défaut se procureront le catalogue parce qu'il retrace toutes les photographies, verront que les Boissonnat étaient bien et bien une figure aussi architecturale du patrimoine genevois, puisqu'ils étaient dans un bâtiment au quai de la Poste notamment, et un bâtiment qui est historique pour le coup, et d'un point de vue européen et international également, parce qu'il y avait d'autres cabinets de photographie en France, notamment à Reims, à Paris bien entendu, mais aussi à Saint-Pétersbourg.
Oui, alors Fred Boissonnat a fait fortune avec son atelier du Quai de la Poste. Le bâtiment, effectivement, aujourd'hui est toujours visible, il est absolument magnifique. Il a ensuite racheté des ateliers à Marseille, celui de Nadar, vous l'avez dit, à Paris, à Lyon, à Reims, à Saint-Pétersbourg. Et donc, c'est un empire photographique qu'il a réussi à construire durant la première partie de sa vie. Et j'invite les Genevoises et les Genevois donc à voir cet atelier au Quai de la Poste, mais aussi... Alors, il y a aussi peut-être un projet de patrimonialisation du chalet qu'il avait fait construire après l'exposition nationale suisse de 1896, qui est un chalet absolument unique et vraiment extrêmement beau dans le canton de Genève.
Donc, il y a tout un travail qui va pouvoir se poursuivre probablement autour de Boissonnat et de son héritage, qu'il soit justement architectural, photographique ou littéraire. On vous écoutera encore des heures, Estelle Seuillet. Je tiens à vous remercier vraiment pour ce travail magistral, colossal. D'ailleurs, les lecteurs peut-être ne s'en doutent pas de tout ce qui s'est passé dans les coulisses pour obtenir ce magnifique catalogue que vous pouvez bien sûr vous procurer en envoyant un email au musée RAT, ou bien alors directement à l'Université de Genève, ou en librairie. Il suffit de commander aux éditions de La Martinière l'ouvrage Fred Boissonnat et la Méditerranée, une odyssée photographique. Je vous recommande de vous intéresser à notre patrimoine local, à la photo et à la littérature en l'occurrence, puisqu'il y a ce partenariat avec Beau Bovie. Et grâce ceci à Estelle Seuillet, un dernier mot avant qu'on se sépare.
Merci infiniment pour votre émission. On est très triste, évidemment, de la fermeture de l'exposition. On ne sait pas si elle va pouvoir rouvrir. Et donc, votre émission, et puis au-delà, le livre, permettent quand même de faire revivre cette œuvre, cette histoire à laquelle, on pense que cette histoire et cette œuvre peuvent intéresser bien au-delà du cercle des spécialistes. Et c'est aussi toute une aventure humaine qu'on a voulu retracer.
Merci à vous, vous l'avez excellemment bien retracé et partagé. J'invite nos auditeurs à lire le catalogue et à s'intéresser au Boissonnat. Merci.
Merci beaucoup. Au revoir.
Le radiolittéraire actif est un oiseau rare et nocturne. Il ne lit pas, il dévore les livres. Parfois même, le texte l'engloutit.
La semaine prochaine, nous découvrirons un projet littéraire en ligne tout à fait unique grâce à un trio de jeunes émules, livremoi.ch.